Radio Estable. Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Alors, on veut pas que les gens pensent qu'ils peuvent venir fumer du cannabis chez nous, faire du ski, du golf et enfumer tout le monde autour.
Vous avez reconnu l'accent, le cannabis légal désormais au Canada, ça veut dire une législation particulière par province. C'est pas simple, celle du Québec est l'une des plus restrictives, ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars et Amélie Perrier qui a décidé de jouer à nous faire peur puisque c'est Halloween chez les Américains, on parlera de selfies mortels, d'astéroïdes dangereux, d'escaliers d'exorcistes. 18h50, le cinéma en VO et la vie de Berlusconi mise en image par Paolo Sorrentino. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four ou comment Asia Bibi acquittée d'une condamnation à mort pour blasphème secoue le Pakistan. Mais avant c'est en Algérie que je vous emmène. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Le scénario est donc le même qu'en 2014 et finalement sans surprise annonce l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat à la tête de l'Algérie. Une candidature, une annonce qui soulève finalement très peu de réactions dans un pays qui n'a pas entendu parler son président depuis bientôt 5 ans, qui sait qu'il ne se déplace plus, qu'il ne bouge plus. Est-ce qu'il comprend même ce qui se passe autour de lui? On n'en sait rien. La question qui vient c'est où va l'Algérie aujourd'hui? Bonsoir Hassni Abidi.
Bonsoir.
Vous êtes politologue spécialiste du monde arabe, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. L'absence de réaction à Hassni Abidi, ou le peu de réaction en tout cas à la candidature de Bouteflika, c'est quoi? C'est de la résignation, c'est du fatalisme, c'est de la peur, c'est la conscience qu'il n'y a pas d'alternative. Est-ce que c'est tout se mélange en même temps, finalement?
Oui, c'est un mélange de tout. Mais l'Algérie, c'est un pays qui brille par son opacité et la complexité de son système politique. Il est très difficile d'identifier les acteurs et d'anticiper leur conduite. Le paradoxe de ce système, c'est que ce mandat, le quatrième mandat, il se termine en quelque sorte dans le désordre général, avec une crise au Parlement et avec une purge sans précédent dans le commandement militaire. Et c'est pourquoi la population algérienne, elle est habituée, résignée. Et en même temps, elle sait que la sollicitation du FLN, c'est-à-dire sa demande de briguer un cinquième mandat, ce n'est que le premier acte dans un grand feuilleton.
Dans un grand feuilleton, c'est-à-dire, mais qui a commencé à quel moment? Qui a commencé en 99 à l'arrivée de Bouteflika, qui donc n'est pas fini? Parce que attendez, quand on y va jusque-là, puisqu'il n'est pas mort, on pourra aller très loin avec ça, non?
Généralement, quand on opte pour la continuité au nom de la stabilité en Algérie, c'est parce que ce qu'on appelle en Algérie les décideurs, et on est face finalement à une architecture inédite, c'est-à-dire un pôle présidentiel autour du président de la République. Un autre pôle, c'est le pôle de l'armée. On voit bien l'état-major de l'armée algérienne qui est très puissant. Et bien sûr, le nouveau pôle qui n'existait pas auparavant, c'est le pôle des hommes d'affaires. Et donc, faute de trouver un candidat ou faute d'avoir négocié une succession, on adopte finalement pour la continuité ou pour un cinquième mandat. Mais on n'est pas encore là parce qu'il s'agit juste d'un coup d'essai d'abord de la part de son parti.
Alors effectivement, parce qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui disent attendre. Alors qui disent, on entend aussi, il faut que lui se décide. On a presque envie de rire quand on entend ça. Honnêtement, est-ce qu'on sait s'il parle, Abdelaziz Bouteflika? Est-ce qu'on sait s'il comprend ce qui se passe autour de lui? Est-ce qu'on a même ce genre d'infos ou pas du tout?
Écoutez, Bernard Bagelet, qui était ancien ambassadeur à Alger, qui à mon avis a beaucoup plus d'informations que moi, disait qu'il est
en mort clinique.
Absolument.
Et Bagelet est revenu sur ses déclarations, en fait, sentant qu'il avait un peu secoué un gros cocotier en disant des choses pareilles. Mais c'est ce qu'on dit en Algérie, qu'il est déjà mort ou quasiment Bouteflika ou pas?
Parce que le système algérien est arrivé à une séquence très importante, c'est-à-dire que le pouvoir, Bouteflika ne le représente plus. En Algérie, on sait que Bouteflika ne détient pas le pouvoir. Ce n'est pas le seul détenteur du pouvoir. Et c'est pourquoi sa maladie, sa paralysie ou son état de santé ne signifie pas grand-chose pour les Algériens.
Et est-ce qu'on sait qui dirige, au fond, ou pas du tout? Ou ce que vous dites, effectivement, cette espèce de conglomérat très compliqué à décrypter. Est-ce qu'on peut mettre un nom, quelque chose? Est-ce que c'est Saïd Bouteflika, le frère? Est-ce qu'on peut mettre un nom, quelque chose, ou pas du tout?
Évidemment, son frère, c'est l'homme le plus proche de lui. Il gouverne, évidemment, au nom de son frère. Il est conseiller. Deuxième élément, c'est que le pôle présidentiel est composé de personnalités politiques, mais aussi militaires, qui accompagnent le président depuis plusieurs années. Mais le deuxième pôle qui est important, c'est le pôle des militaires, mais surtout de l'état-major, qui a réussi quand même à faire une purge spectaculaire.
Là, ces derniers jours.
Absolument, derniers jours.
Et est-ce qu'on peut l'expliquer, cette purge de ces derniers jours? Est-ce que c'est aussi parce que l'armée, quand même, peut être un danger pour Bouteflika, il y a ce général à la retraite qui a dit, c'est rapporté par Le Monde, cette phrase, l'Algérie est devenue l'homme malade de l'Afrique, et le général exhortait ceux qui détiennent le pouvoir de se démarquer par rapport au projet absolument insensé de reconduite d'un grand malade octogénaire pour un cinquième mandat, fermé les guillemets. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment, l'armée se retourne ou pas du tout?
Il est très difficile de penser à un coup d'état de l'armée parce que d'abord l'institution militaire, elle est derrière le chef d'état-major qui est le vice-ministre de la Défense. Et le deuxième élément, c'est qu'un coup d'état est difficilement acceptable aujourd'hui, à la fois par la population mais aussi par la communauté internationale.
Mais à quoi a servi la purge en fait?
La purge, elle a... Pour l'armée, il s'agissait de dire qu'il y a des militaires qui ont versé dans la caisse et que l'institution militaire, elle doit nettoyer un petit peu ses rangs. Mais il y a d'autres lectures en disant que probablement il y a une tentation de la part de certains militaires de s'emparer du pouvoir ou disons de dire à Bouteflika que un quatrième mandat c'est assez et c'est pourquoi l'état-major a essayé d'anticiper les choses.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2014 quand il y avait eu quand même un certain nombre de mouvements, on se souvient de mouvements qui s'appelaient Barakat notamment, qui étaient là en train d'essayer de monter pour appeler au moins à une ère nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que tous ces mouvements-là sont quasiment tous éteints en fait et qu'il ne se passe rien?
C'est un autre paradoxe de l'Algérie, c'est-à-dire qu'un système figé, mais il y a des choses qui se passent, par exemple cette purge, par exemple le pôle financier qui s'associe avec des tenants du pouvoir présidentiel, ce qu'on appelle les décideurs, et en même temps vous avez une société civile qui est là, qui bouge, et évidemment Barakat, il y a un autre mouvement qui s'appelle Mouatana, ça veut dire citoyenneté, qui fédère plusieurs partis politiques et plusieurs associations. Et il y a aussi les réseaux sociaux. On a une population algérienne qui n'a plus ce complexe de la décennie noire, qui ne pourra plus dire, attention, l'Algérie a vécu déjà une industrie noire et on ne peut plus bouger au nom de la stabilité ou parce qu'on nous fait peur de ce qui se passe en Libye ou en Tunisie. Cette jeunesse ou cette société civile n'a pas dit son mot et elle risque de bouger à tout moment.
Alors où elle est en ce moment justement? Est-ce qu'elle peut bouger là dans les 6 mois qui viennent avant l'élection? Est-ce que vous sentez que c'est possible? Vous l'avez dit, effectivement, on leur montre les voisins, on leur dit regardez la Syrie, regardez la Libye, il ne faut surtout pas qu'on devienne ça. C'est un peu l'épouvantail qu'on agite aussi devant la jeunesse, ce genre d'exemple. Donc est-ce qu'effectivement il y a quelque chose d'éruptif comme ça qui existe ou pas?
C'est vrai que le récit du pouvoir est contraignant et c'est un récit qui fait peur à la population algérienne en présentant l'Algérie comme un îlot de stabilité parmi plusieurs États comme la Libye ou même comme la Tunisie. Mais en même temps, vous savez que la société civile a sa propre dynamique d'action et on ne peut pas prévenir, on ne peut pas dire vraiment s'il y a un moment où elle va bouger. L'action de la société civile, c'est l'accumulation de la grogne sociale, de la révolte et c'est pourquoi le pouvoir ne veut pas précipiter les choses d'un cinquième mandat. Il veut s'assurer un petit peu de soutien au niveau du sommet, au niveau de la hiérarchie militaire, parce que c'est important. C'est elle qui a la force de frappe, c'est elle la mieux disciplinée. Et en même temps, essayer d'envoyer des messages à la société, à la population algérienne, pour voir si elle était finalement perméable à un autre mandat pour le président algérien. Donc les choses ne sont pas encore
figées.
Ne sont pas encore figées, la messe n'est pas dite.
Comment il est perçu justement par la population, ce président Bouteflika? On a beaucoup dit que c'était l'homme de la fin des années noires et que c'est pour ça aussi que, au fond, la population restait sage, entre guillemets. Comment il est perçu, ce monsieur?
Les avis divergent. Il y a un respect pour un homme quand il est venu en Algérie. Il a adopté cette loi, ce qu'on appelle la loi de la concorde civile, qui a mis fin quand même à une décennie noire et qui a été certes préparée par l'armée. Mais lui, il a travaillé sur cette ligne-là, la réconciliation nationale et le retour des militaires dans la vie sociale. Et en même temps, je pense qu'à partir du troisième mandat, le troisième mandat et le quatrième mandat sont les deux mandats de trop pour ce président qui est aujourd'hui absent, affaibli par la maladie. Et donc, l'usure du pouvoir a transformé ce président d'un président élu pour faire quelque chose
et donc
à l'Algérie,
populaire quand même,
à un président qui devenait un homme du pouvoir ou un homme du système et plus un homme vraiment d'État.
La moyenne d'âge des Algériens est très basse. En fait, c'est une population qui est jeune, une démographie qui est très jeune. Tous ces jeunes-là n'ont absolument pas connu le Bouteflika dont vous parliez, celui du premier et du deuxième mandat. Et là encore, qu'est-ce qu'elle dit, cette jeunesse-là? Est-ce qu'elle a un espoir en Algérie où le seul, c'est de traverser la Méditerranée pour essayer de rejoindre l'Europe, comme le font tous les voisins du Maghreb?
Elle est présente, c'est une jeunesse qui est décomplexée, elle a créé son propre monde, c'est un monde virtuel. On assiste à un certain divorce de la chose politique en Algérie, c'est-à-dire que les partis politiques sont désertés, ils sont affaiblis, ils sont minés de l'intérieur par les services de renseignement, par le parti FLN, par l'administration aussi. Mais moi je pense qu'il faut continuer à miser sur les dynamiques sociales. Elles sont porteuses de changements, mais le moment probablement n'est pas opportun pour que cette société civile organise et se présente comme alternative. Et ça, c'est le risque, à mon avis, d'un cinquième mandat pour le président Bouteflika.
Pas opportun, pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qui manque pour que, je ne sais pas si on peut parler d'explosion, en tout cas, parce que ce n'est pas ce qu'on souhaite non plus, mais qu'est-ce qui manque pour que quelque chose se produise qui lance une nouvelle ère, en fait?
C'est souvent par une étincelle, on ne sait pas exactement comment la population va bouger.
Donc c'est une étincelle sociale, vous dites, comme chez les voisins de Tunisie, par exemple.
Une étincelle sociale ou une accumulation évidemment de colère sociale, des problèmes économiques. Il se trouve qu'aujourd'hui, les prix de pétrole ont augmenté. Et chaque fois que les prix augmentent, c'est une bouffée d'oxygène pour le pouvoir. Certes, le pouvoir, il n'a plus les moyens d'acheter. Il est en train de louer, finalement, même la paix sociale. Mais je crois que les conditions économiques et sociales sont de nature vraiment à déstabiliser ce régime. S'ajoute à cela un petit peu la réponse internationale ou la réaction internationale. Il faut dire que beaucoup de chancelleries occidentales sont inquiètes un petit peu de ce débat sur un cinquième mandat, alors que l'Algérie est appelée à répondre à des défis internes, économiques, vous avez évoqué la bombe sociale, la bombe démographique, mais aussi des défis sécuritaires en Libye, en Tunisie et dans le sud de l'Algérie. Et c'est pourquoi certains pays, partagés par le souci de stabilité, continuent avec Bouteflika pour s'assurer de la bonne marche des affaires et des choses, et en même temps espérer quelque chose de nouveau pour les Algériens.
Et ça aussi, c'est le chiffon rouge qu'on agite dans tous les sens, parce que si quelque chose bouge en Algérie, regardez ce qui risque de se passer, à la fois comme les voisins on l'a dit, mais aussi sur le terrain économique. Est-ce que ce risque est là aussi parce que, au fond, vous le disiez, le FLN a tellement tout étouffé et tout mis sous son boisseau? Est-ce que ça veut dire aussi que, de toute façon, il n'y a pas d'opposition prête à gouverner aujourd'hui, réellement, en fait?
Non, l'opposition, elle est là, elle existe, elle est prête. Mais un des drames du président Bouteflika, c'est qu'il a miné toute alternative. Il n'a pas pensé au jour d'après. Il n'a pas préparé la succession. Il n'a jamais, la question de la transition n'a jamais été abordée.
Il l'a fait exprès, c'est un grand classique. C'est un grand classique. En Afrique, au Maghreb, comme jusqu'au fond de l'Afrique, non? C'est un grand classique.
Oui, c'est vrai, c'est un grand classique. Mais lui, qui a quand même passé 20 ans de traverser le désert, d'ailleurs, il se venge bien, puisqu'il a passé maintenant 20 ans aussi au pouvoir, et il aurait dû quand même travailler sur cette alternative de la jeunesse et des partis politiques. Mais étouffé, complètement marginalisé de l'exercice de l'opposition comme l'exercice du pouvoir, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a un vide autour du président et du pôle présidentiel.
Hasni Abidi, pardon de vous poser la question comme ça, qu'est-ce que vous pariez, vous? Est-ce que vous dites qu'il peut se passer quelque chose dans les 6 mois, effectivement, là maintenant, qui précède cette élection? Ou est-ce qu'on s'achemine, effectivement, tel que vous le voyez, vous, vers ce cinquième mandat?
Cette séquence, elle est inédite, parce que l'état de santé de Bouteflika ne lui permet pas de continuer un cinquième mandat. Et avec ce qui se passe, surtout après la purge des militaires, je pense que ce mandat se termine avec une séquence qui est douloureuse pour les Algériens, mais aussi pour le système politique algérien, qui est obligé à se renouveler s'il veut continuer.
Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Je rappelle que vous avez écrit, c'est votre dernier ouvrage, Moyen-Orient, le temps des incertitudes. C'est publié chez Éric Bonnier. Merci beaucoup.
France Inter, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, je ne sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers. En tout cas, le Canada est stone l'autorisation du cannabis partout en route depuis le 17 octobre. Vous allez voir que chaque province a sa législation propre et que le Québec est la plus restrictive. Sous les radars, et Amélie Perrier qui joue à se faire peur en ce jour d'Halloween chez les Américains du Nord avec des selfies mortels, avec une astéroïde qui va nous tomber dessus, avec un escalier d'exorciste. Le cinéma en VO avec vous, Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir.
Paolo Sorrentino, Corinne, qui s'est attaqué à Berlusconi.
Exactement, un grand coup de saladier de coke, de fille en bikini, qui met en scène un redoutable homme d'affaires dans la peau de Tony Servillo, formidable.
Et à tout à l'heure pour en parler, le monde à l'envers, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Avec cette décision très commentée de la Cour suprême au Pakistan.
Saluons le courage des juges pakistanais qui viennent de libérer la chrétienne Asia Bibi, mais ce n'est qu'une goutte d'eau au milieu du paysage de la persécution des chrétiens.
Allez, à tout de suite. Le tour de la planète continue. Dans Un jour dans le monde, il passe par Londres. Voici Miles Kane sur France Inter. Loaded.
A monkey with my makeup running, too proud to find no time to breathe. My baby's always threatening to leave. You can't do that or be here. Almost brought me down to
Ah ben j'ai oublié comment s'appelait ce monsieur qui chante, tiens, mais je sais qu'il est anglais.
Miles Kane.
Ah, Miles Kane.
La chanson,
voilà.
C'est Loaded.
C'est vrai. Rendez-moi mes papiers, Amélie Perrier. Tout ça, c'est pas très sympa quand même.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perrier. Amélie, vous avez décidé de nous faire peur. Eh ben allons-y. On commence avec une photo au péril de nos vies à tous.
Effectivement.
Je rêve.
C'est Halloween, hein.
Ouais.
Voilà, c'est une petite pub pour un appareil photo. Un touriste regarde le cliché d'un lion qui vient de prendre en safari. Il se fait très peur face à l'image, très réaliste. Le slogan, approchez-vous sans vous approcher. Alors en fait, ce couple qui vient de mourir dans un parc naturel américain aurait dû se rappeler ce conseil. Deux jeunes Indiens sont tombés d'une falaise à Yosemite. Le frère de l'homme a raconté qu'ils étaient en train de prendre un selfie à Taft Point, un pic vertigineux. Les corps des deux époux ont été retrouvés 250 mètres plus bas. Le pire dans cette histoire, c'est que sur leur compte Instagram, ces passionnés de voyage et de photos très travaillés, en mars dernier, avaient posté une photo de la jeune femme assise au bord de falaise à Grand Canyon, alors qu'apparemment le vent soufflait trop fort. Et puis, ils avaient légendé ainsi les limites du « do it for the gram », fais-le pour Instagram, nos vies valent-elles une photo ? Et plus loin, ils écrivaient « essayons d'être des citoyens du monde numérique plus responsables ». En Inde, d'où les deux victimes venaient, le ministre du Tourisme a déclaré des zones touristiques interdites au selfie après une série de morts accidentelles. Voilà que notre volonté d'immortaliser nos souvenirs nous rende beaucoup trop mortels.
Et si la Terre, Amélie, était menacée par un astéroïde,
hein ? Là, les scientifiques aussi aiment se faire peur pour Halloween.
Russia's about to get hit by a meteor storm. Then Berlin. Then London. The second wave of destruction will be the dark asteroid.
Bah, c'est Astéroïde Final Impact. Pour vous parler d'un retour pas rassurant du tout, celui d'un astéroïde. Il est déjà passé près de la Terre, c'était il y a 3 ans, le 31 octobre 2015. Alors la NASA avait décidé de le baptiser la Grande Citrouille, en clin d'œil à Halloween. Et ça va plus loin, car quand les astronomes ont vu les premières images de 2015 TB145, là c'est son nom technique, l'astre avait une tête de mort, un crâne. Il mesure 700 mètres de diamètre, il est très sombre, il ne réfléchit quasiment pas la lumière du soleil. Alors faut-il trembler pour son retour cette année?
Oui, faut-il.
Déjà, je vous réponds, on n'attend pas ce soir pour Halloween,
d'accord.
Mais le 11 novembre, l'astéroïde sera alors à 38 millions de kilomètres de la Terre, on a de la marge. Mm-hmm. Il y a 3 ans, la grosse citrouille s'aventurait à moins de 500 000 kilomètres de nous. Et la prochaine fois que 2015 TB145 se rapprochera vraiment de nous, ce sera encore pour Halloween, mais Halloween 2088.
Voilà, c'était un peu dans longtemps. J'espère qu'entre-temps, on lui aura trouvé un nom un peu plus glamour que 2015 TB145. C'est important. Voici les escaliers, Amélie, les plus effrayants de l'histoire du cinéma, peut-être.
75 marches aujourd'hui au cœur d'un combat à Washington pour ne pas être détruit par un projet immobilier.
Alors ça, c'est vraiment épouvantable.
Vous vous souvenez ?
Bah non, je ne l'ai pas vu.
Ici, c'est le père Damien Carras. Il est possédé par un démon maléfique dont il tente de délivrer la petite Regan. Il se défenestre et il chute justement dans ces escaliers coincés entre deux murs de briques. Vous avez reconnu, c'est donc L'Exorciste de William Friedkin, sorti en 73. À l'époque, la scène a été rejouée 3 fois. Les marches avaient été recouvertes d'une fine couche de caoutchouc, mais c'était quand même une sacrée chute. Aujourd'hui, une plaque indique que cet escalier a servi de décor à l'un des monuments du cinéma d'horreur dans un quartier très cossu de Washington, c'est à Georgetown. Une association de riverains vient surtout donc de faire une demande pour classer les marches construites en 1895, pour les classer monuments historiques, pour empêcher la construction d'un complexe immobilier à côté, décision dans 15 jours.
Eh bien écoutez, voilà, moi je ne les veux pas chez moi, personnellement, les fameuses marches. Vous ferez exactement ce que vous voulez.
Bon,
Amélie Perrier.
Vous êtes peureuse un peu.
Ah, mais totalement. Oui, ça me terrorise ce genre de truc. Allez, à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est au Canada que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Le Canada qui, depuis presque une petite quinzaine de jours, depuis le 17 octobre, a donc légalisé le cannabis. Vous savez que l'Uruguay est le seul pays qui l'a fait complètement. Vous savez qu'il y a une dizaine d'États américains aussi qui l'ont fait également. Bonsoir Pascal Guéricola.
Bonsoir.
Alors ce qui est intéressant chez vous, c'est que chaque province a finalement une législation un peu particulière, notamment sur l'âge du consommateur, sur le droit de fumer en public, dans quels endroits, etc. Et c'est finalement le Québec qui a la législation la plus importante. On écoute ça ensemble.
Si vous êtes gelé, ne conduisez pas et n'allez pas au travail.
Rangez le cannabis dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. Ne voyagez pas à l'étranger avec du cannabis. Que vous entrez ou quittez le Canada, il est illégal de passer la frontière canadienne avec du cannabis. Renseignez-vous sur les faits. Visitez la page canada.ca/le-cannabis. Un message du gouvernement du Canada.
Au Québec, les fumeurs de cannabis ne sont pas stone, mais gelés. Depuis le 17 octobre, l'engouement pour cette drogue, enfin légale, ne s'essouffle pas, au point que la Société québécoise du cannabis n'ouvre ses succursales que 4 jours par semaine, faute de marchandises à vendre.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui.
Ça passe. Il reste que du 15 grammes, j'ai plus rien en bas de ça.
Parfait. Mais je pense qu'il reste 1 gramme.
Non, j'ai tout vendu mon prépa chita.
Ah oui?
Oui, oui. Il me reste, j'ai plus de gélules, il me reste 2 formes d'atomisateurs en rate présentement.
Okay. Pour assurer la sécurité des commerces, le gouvernement a choisi de ne pas stocker de marijuana. La marchandise arrive donc au compte-gouttes des producteurs autorisés. Et la cliente est bien avertie d'avance des risques qu'elle court en utilisant cet atomiseur de cannabis.
Si on achète ça, exemple, faut faire attention, puis on prend juste un coup en dessous de la langue, il faut attendre quasiment une heure avant de voir si ça va agir. Puis là, ben, selon notre effet, comment on se sent, ben, on peut peut-être en prendre une autre. Mais je dirais qu'habituellement, là, c'est un coup, deux coups, trois coups, même pour les gros fumeurs.
Avec cette légalisation, le gouvernement espère récupérer enfin au moins une partie des recettes laissées jusque-là au marché noir. C'est au Québec toutefois que la législation s'avère la plus sévère. Interdiction de fumer sur les pistes cyclables, aux arrêts d'autobus, dans les lieux publics de plusieurs dizaines de municipalités québécoises. Même certains appartements font l'objet d'un sévère encadrement.
Joli cœur la casse un moment, je vous prie.
Bienvenue dans le cabinet d'avocats où travaille Michel Paradis. Président d'un regroupement de copropriétaires qui compte près de 10 000 logements, il a planché sur des règlements interdisant de fumer dans les aires communes ou même à l'intérieur des résidences. Des règlements soumis au vote des résidents. Mais pourquoi au fait?
Si on met l'âge à 18 ans, ce ne sera pas long qu'à 16 ans, les jeunes vont consommer avec leurs amis, avec leurs parents. On veut éviter la banalisation et on veut prévenir les effets délétères à long terme.
Aux yeux du juriste, consommer du cannabis n'a rien d'un privilège. Plusieurs propriétaires craignent que l'odeur très particulière de cette herbe diminue la valeur monétaire des appartements. Une position qu'endosse cette représentante d'une copropriété située dans une station de ski. Elle annonce à une de ses amies le bannissement dans son immeuble du pote, la Marie en québécois.
Je ne voulais pas être spécialisée dans le canatourisme. C'est le tourisme du cannabis. Alors, les gens vont organiser des activités ou des voyages où il peut se fumer en toute quiétude du cannabis. Alors, on veut pas que les gens pensent qu'ils peuvent venir fumer du cannabis chez nous, faire du ski, du golf, et puis enfumer tout le monde autour. Alors, nous, on a complètement banni la chose.
Côté gouvernement québécois, la mode n'est pas non plus à la permissivité. Même si actuellement la Marie est accessible aux plus de 18 ans, le gouvernement de droite, tout juste élu, songe à augmenter cet âge minimum à 21 ans. Les explications du ministre adjoint à la Santé, Lionel Carman.
On a peur que finalement la légalisation fasse en sorte que celui qui fumait son joint une fois de temps en temps pour s'endormir se transforme en un fumeur de 8 joints par jour. Que ça va faire en sorte que les gens vont fumer des joints comme ils fument des cigarettes.
La législation propre au Québec en matière de contrôle de l'image du cannabis n'a rien de permissive non plus. Depuis la légalisation, le gouvernement interdit toute référence à cette drogue sur des t-shirts, des tasses ou des boissons. Un message jusqu'alors toléré. Martin Guimond, qui avait lancé sur le marché près de 50 000 bières au cannabis sans les effets planants de cette herbe, fait les frais de cette loi. Sa bière Gros Pétard et les autres, arborant une petite feuille de cannabis, sont interdites de vente.
la bière est bonne et la bière, elle est légale. C'est ça le pire. C'est pas comme si on essayait de vendre des produits qui sont soit pas bons, des produits qui sont périmés. Des produits sont de très grande qualité et c'est ça qui est terrible, c'est de se battre pour être capable de vendre un produit légal. Cette loi-là, elle a été bâclée. Et même quand mes avocats essaient d'obtenir des interprétations du gouvernement, des avocats du gouvernement, à savoir comment la loi peut-elle être interprétée, parce que nous, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, ben même ceux-ci ne sont pas capables de se prononcer.
L'ironie de l'histoire, c'est que le brasseur doit absolument mentionner la présence du cannabis sur son étiquette pour se plier à une autre règle du gouvernement. Toutes ces restrictions inquiètent le professeur en psychologie Jean-Sébastien Fallu, spécialiste des dépendances.
Si on remonte à il y a 10-15 ans, je pense que le Québec avait un plus large appui pour la décriminalisation, légalisation. Mais depuis le début des années 2010, on voit le Québec qui est toujours un peu à la remorque, là, et bon dernier dans l'appui à des réformes en matière de drogue. Il y a plusieurs courants politiques, plus de droite conservateurs au Québec qui se manifestent dans les dernières années par rapport à avant. Le Québec, pour moi, se transforme. Et il y a une vague populiste, conservatrice assez forte, je trouve.
Selon un sondage récent, c'est au Québec que le nombre d'opposants à la légalisation du cannabis serait le plus élevé.
Pascal Guéricola pour Un jour dans le monde. Pascal, n'abusez pas, mais revenez quand vous voulez. Et voici Ray Charles sur France Inter, Unchain My Heart.
Unchain my heart. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you're letting my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Phone. Some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care about a beat for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Your spell.
I'm under your spell,
like a man in a trance,
like a man in a trance.
Wow, you know darn well,
that I don't stand a chance.
So unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way.
Unchain my heart,
unchain my heart,
unchain my heart.
You bury me night and day. When you don't care about a beat for me, so unchain my heart, please, please set me free.
Please set me free.
Oh, won't you set me free?
Please set me free.
Whoa, set me free.
Please set me free.
Ray Charles et Unchain My Heart sur France Inter.
3, 2, 1.
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is
Un jour dans le monde.
Action.
le cinéma en VO et Corinne Pellissier qui nous emmène en Italie ce soir auprès d'un homme qui a fait la pluie et le beau temps pendant tellement longtemps, même si aujourd'hui l'Italie a tellement changé de visage. Voilà en tout cas celui qui a incarné pendant 20 ans le triomphe du libéralisme. 3 fois chef de gouvernement, 5 fois ministre. On parle de Silvio Berlusconi, bien évidemment, et c'est à lui qu'a voulu s'attaquer Paolo Sorrentino. Le film s'appelle Silvio et les autres. Bande annonce d'abord.
Silvio.
Io sono un uomo. Io sono l'angelo della notte. Io conosco il copione della vita.
E il mio ruolo politico?
Semplice. Convincere 6 senatori a passare dalla tua parte.
Ragazzi.
Voilà, on le sent, hein, le style Bunga Bunga. Pas facile en tout cas de s'attaquer à un personnage de cette envergure, Corinne, cynique, amoral, décadent, insupportable. Et du coup, Sorrentino a décidé de s'arrêter sur l'homme, en fait.
Voilà, c'est un portrait intime, très éloigné du caïman de Nanni Moretti, beaucoup moins politique, davantage centré sur la personne qu'on trouverait presque touchante dans le film, exubérant, hors norme, mais touchant, en dépit des soirées Bunga Bunga, des filles en bikini, des saladiers de coke que le réalisateur n'a pas oublié de montrer. Un homme manipulateur, impitoyable, de mauvaise foi, morale, souvent vulgaire, et en même temps, un peu fragile, souvent très seul, confronté à ses peurs et ses désillusions. Le parti pris de Sorrentino était assez oser comprendre plutôt que juger.
Et c'est pour ça d'ailleurs, Corinne, qu'il fallait un comédien capable d'incarner les différentes facettes de cette personnalité complexe qu'est celle de Berlusconi.
C'est Tony Servillo, le comédien fétiche de Sorrentino, qui fait le job à merveille. La transformation physique est incroyable, même visage figé, même sourire, même démarche. C'est son 5e film avec le réalisateur italien. Il n'aurait sans doute pas travaillé sur le projet avec quelqu'un d'autre. C'est le rôle le plus difficile qu'il ait jamais eu à tenir, mais ce qui l'a séduit, c'est ce personnage, c'est ce qu'il nous raconte de l'Italie d'aujourd'hui.
Seguendo le indicazioni de la sceneggiatura e le intenzioni di Sorrentino.
Je n'ai fait que suivre les indications du scénario et de Sorrentino. Sorrentino ne voulait pas crucifier Berlusconi. Cela a été déjà fait par les journalistes politiques, les comiques, qui en ont fait des myriades d'imitations. Et je pense que si on avait dépeint Berlusconi uniquement comme un monstre, cela ne nous aurait pas aidé à en comprendre plus. Mais justement, en cherchant dans ses faiblesses, nous avons pu comprendre, avoir une image à 360 degrés, en fait, complète de ce personnage. Donc, en allant jusqu'à chercher dans cette italianité de celui qui fait des blagues, qui est hyper optimiste, derrière tout cela, on voit qu'il se cache la ruse d'un commercial, en fait, d'un grand entrepreneur. Et c'est, on voit avec quelle ruse il crée le consensus en allant chercher un contact avec le ventre, les entrailles des électeurs. Et c'est très dangereux parce qu'on base tout cela sur le ventre et ne partage pas le rêve d'une vision politique.
Un film qui résonne évidemment avec l'actualité. Un autre personnage, Donald Trump, héritier en quelque sorte des années Berlusconi.
Non posso negare che da un po' di anni a questa parte nel nostro paese ci sono degli esperimenti della politica.
Il est indéniable que ces derniers temps en Italie il se passe quelque chose dans le domaine politique. Il n'est jamais arrivé ailleurs qu'un entrepreneur qui possède une puissance médiatique économique formidable descende sur le terrain politique sans avoir aucune expérience et qu'il arrive à créer un parti en adoptant des méthodes d'entrepreneur.
Je crois que dans notre pays, si est inaugurata, secondo me, questa è un'opinione personale, un triste primato di una politica spettacolo.
De cette sorte, en Italie, nous avons inauguré la triste primauté de la politique spectacle. Et je pense qu'en ce moment, beaucoup de pays européens regardent l'Italie comme un pays où il se passe des choses nouvelles et surprenantes et qui sollicitent notre curiosité. Et moi, je pense que de son côté, le cinéma, le théâtre et la littérature peuvent raconter des histoires qui nous aident à multiplier les points de vue sur ce qui se passe.
Les opinions personnelles, poi, no, su quanto è accaduto.
Le portrait d'un homme en crise, l'Italie, l'esthétique baroque, la musique, tout le cinéma de Sorrentino est contenu dans ce film, Silvio et les autres, sorti en Italie en deux parties sous le nom de Loro, qui n'oublie pas de mettre en scène tout l'entourage de Berlusconi, petite frappe demi-mondaine, éblouie par ce personnage qui fascine autant qu'il rebute.
Allez, merci beaucoup Corinne Pellissier, allez vous soigner Jean-Marc Fourella.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers. Jean-Marc, c'est un événement qu'espéraient tous les militants des droits de l'homme. Au Pakistan, la Cour suprême a acquitté Asia Bibi, c'est une chrétienne injustement accusée de blasphème. Son cas était devenu emblématique, mais dans votre monde à l'envers, vous vous dites cette bonne nouvelle n'est qu'apparente car elle n'arrêtera pas la persécution des chrétiens.
La voici, cette décision de la Cour suprême pakistanaise. Je vous l'ai apportée ici en studio, vous la trouverez sur le site de France Inter. 56 pages d'explications, le poids du courage politique. Les trois juges de la Cour suprême pakistanaise, leurs noms sont là, en haut de la première page, ont donc mis fin à 5 ans de procédure et 8 ans d'emprisonnement. 8 ans pour rien. Asia Bibi est relaxée de toutes les accusations. Elle sera libre dans quelques heures. L'affaire remonte à 2010. Cette femme chrétienne, alors âgée de 39 ans, elle en a 47 aujourd'hui, travaille au champ avec trois musulmanes. Elle boit une gorgée d'eau dans un bol appartenant aux trois autres femmes. Ces dernières ne le supportent pas. Elles lui demandent de se convertir à l'islam. Asia Bibi refuse. Procès pour blasphème, menace de pendaison. L'affaire durait donc depuis 8 ans dans un climat de forte pression politique orchestré par les partis musulmans extrémistes. Décision des juges qui cite le roi Lear de Shakespeare, je lis page 55. Asia, ça veut dire péché en arabe. Quelle ironie! Elle n'a pas péché, ce sont les autres qui ont péché contre elle. Les juges estiment que les accusations portées contre Asia Bibi sont confuses et contradictoires. La condamnation de première instance est cassée, l'accusé est libéré. Et bien sûr, il faut en effet, avec tous les militants des droits de l'homme, s'en féliciter. Le problème, c'est que ça ne va sans doute pas changer grand-chose à la situation générale au Pakistan.
Alors cette femme va quand même retrouver la liberté, non ?
Oui, mais à quel prix ? Dès l'annonce de la décision des juges, des manifestations de colère ont éclaté dans les grandes villes du Pakistan, Karachi, Lahore, Islamabad, à l'appel d'un parti extrémiste, le TLP. Il faut s'attendre à de sérieux mouvements de foule après-demain pour la grande prière du vendredi. Asia Bibi va devoir fuir, sans doute, avec son mari et ses deux filles, probablement à l'étranger. Une condamnation à mort des religieux extrémistes pèse sur elle, comme Salman Rushdie. Elle vivra toute sa vie avec cette menace dans son dos. Et il en va de même pour les trois juges de la Cour suprême. Même fatwa religieuse à leur encontre, même appel à les assassiner. Près de 300 policiers ont dû être déployés autour des bâtiments de la Cour ce matin. D'ailleurs, la décision des magistrats a en fait été prise il y a 3 semaines, c'est marqué là. Mais elle n'a pas été divulguée avant aujourd'hui, le temps de préparer la protection des juges. Au Pakistan, la loi sur le blasphème est telle que l'on peut être poursuivi, point oui, point non. Les lynchages sont courants, sans même un procès. Le personnel politique n'ose pas s'attaquer à cette loi obscurantiste. Le seul homme à l'avoir fait, il s'appelle Salman Taseer, a été assassiné en 2011. Même le nouveau Premier ministre Imran Khan, qui est pourtant un laïc éduqué à l'occidental, ne s'est pas hasardé à critiquer la loi. Il s'est contenté cet après-midi d'appeler à respecter le verdict. C'est quand même bien le moins vis-à-vis d'une décision de la Cour suprême.
Bref, il fait dangereux d'être chrétien au Pakistan, mais pas seulement au Pakistan.
Oui, le pays compte 4 millions de chrétiens pour 200 millions d'habitants et au fil des ans, les agressions se multiplient. C'est l'un des pires lieux au monde pour les chrétiens. Viols, enlèvements, conversions forcées à l'islam, attaque contre une église à Quetta l'an dernier, 9 morts, attentat suicide contre une célébration de Pâques il y a 2 ans, 70 morts, etc. Mais cette dégradation ne concerne pas seulement le Pakistan, vous l'avez dit, selon l'ONG protestante Open Doors. Les chrétiens font désormais l'objet de persécutions dans 50 pays au monde. La situation empire en Inde où le nationalisme hindou fait des ravages, dans la Corne de l'Afrique, en Érythrée, en Somalie, au Soudan, où il n'y a même pas de lieu pour prier. L'an dernier, près de 3000 chrétiens auraient été tués dans le monde en raison de leurs convictions religieuses et les femmes, comme Asia Bibi, sont les premières cibles de la persécution. Donc oui, la décision des juges pakistanaises est courageuse, mais c'est un îlot au milieu d'un océan de violence.
Jean-Marc Four, dans Le Monde à l'envers, tous les jours, merci beaucoup. Dans un instant, c'est le téléphone sonne et juste avant, Sébastien Pavot.